Merci à Philippe pour l'invitation. Merci à Francis, merci à David pour ce temps de conduite, de louange, qui effectivement était très à propos par rapport au thème qu'on va aborder ce matin. Avant de commencer, je voulais simplement me présenter. J'en ai rencontré certains, là, reconnu certains avec lesquels on a fait du basket. On a fait un match de basket, les deux églises, là, il y a quelques semaines. Voilà, très heureux de vous revoir. Donc, je m'appelle Joseph, je suis marié à Estelle, qui n'est pas là ce matin. On a trois enfants, trois petits-enfants, Basile et Lisa, des jumeaux de 5 ans, et puis un dernier qui va avoir 4 ans, là, en mai. Donc, on est bien occupés. Voilà. On est arrivé à Saint-Maur en septembre dernier, donc ça fait un peu plus de 6 mois qu'on est là. On est très heureux de découvrir cette ville, de découvrir l'église et de tisser des liens aussi entre plusieurs églises, notamment ici avec la. Vous avez les salutations de l'église du CEP, salutations chaleureuses et fraternelles. Voilà, nous sommes le premier dimanche des vacances scolaires. Et donc, je voulais vous proposer d'aborder ce psaume, le psaume 23. La Bible utilise régulièrement la métaphore du berger et de son troupeau pour parler de Dieu qui conduit son peuple. Ma dernière expérience personnelle avec des moutons remonte à quelques semaines lors d'une retraite spirituelle que j'ai faite sur les psaumes. Un berger nous avait accompagnés tout le week-end avec ses 4 moutons et nous a partagé le type de lien très spécial qu'il y a entre un berger et ses moutons. Le site internet maformation.fr explique comment devenir berger. L'article il parle des rôles du berger, les études, le salaire, les perspectives d'évolution de ce métier. Il évoque l'attirance de plus en plus d'urbains en mal de nature et en quête de sens pour un métier qui les ferait retrouver, pense-t-il, un paradis perdu. Mais ces nouveaux bergers sont rapidement confrontés à la précarité et à de rudes conditions de travail. David est sans doute le berger le plus célèbre de l'Ancien Testament. Avant d'être un grand roi, David avait été berger des troupeaux de son père. On lui attribue de nombreux psaumes. Celui que l'on va lire ce matin, le psaume 23, est l'un de ses psaumes les plus connus, si ce n'est le plus connu. Le psaume 23 de l'Ancien Testament, comme d'ailleurs le Notre Père qu'enseigne Jésus dans le Nouveau Testament, est une prière inspirée qui nous fortifie dans nos craintes du présent et de l'avenir. Pour le croyant, ce psaume exprime sa confiance sereine en son Seigneur, peu importe les circonstances extérieures, et un avenir assuré dans sa présence, comme on l'a pas mal chanté ce matin. Le Seigneur est mon berger, même si, 3 petits points. Et lisons ensemble, donc je lis dans la version NBS. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Alors on aime bien les images, on a besoin d'images pour un peu retenir les choses. Là je vous propose, enfin le psaume vous propose 3 images. Le berger, le ravin et le festin. Commençons par le berger. Le premier verset annonce, psaume de David. Psaume du célèbre berger. David connaît le soin qu'un berger donne à ses brebis. Il a suivi, lui, la formation maformation.fr. Il connaît ses deux rôles principaux, protéger avec le bâton, conduire avec la houlette. Protégé et guidé, car une brebis, c'est vraiment un animal sans défense, qui ne vit que grâce à la protection du berger. Pour les citadins qui sont comme moi, voilà en quoi consiste cette protection. Et je vous lis un petit texte. Le premier soin d'un berger palestinien est de chercher et de préparer un bon pâturage. Certaines régions sont impropres à nourrir le troupeau, souvent arides ou remplies de plantes vénéneuses. Lorsqu'un terrain favorable a été découvert, le berger remarque ici et là des trous de vipères dans lesquels il fait brûler de la graisse de porc, de peur que ses brebis ne soient mordues au museau. Plus loin, dans les collines avoisinantes, il aperçoit des tanières de chacals ou d'hyènes dont il bouche l'orifice avec de grosses pierres. Il faut aussi que le pâturage soit arrosé par un ruisseau qui coule doucement, car une eau stagnante serait malsaine et un torrent rapide risquerait d'entraîner quelques agneaux imprudents. Enfin, le berger a trouvé une prairie remplissant toutes les conditions requises. La brebis y broute une herbe verte et savoureuse, puis elle s'étend pour laisser passer les heures les plus chaudes de la journée. Non, elle ne manque de rien, puisqu'elle peut se nourrir, se désaltérer et prendre du repos. Plus d'une fois, David avait fait face au danger quand il gardait les moutons de son père. En un sens, il a été berger toute sa vie, d'abord de troupeaux d'animaux, puis du troupeau du Seigneur, comme roi, du peuple d'Israël, comme le dit le psaume 78, je lis les versets 70 à 72. L'Éternel a choisi son serviteur David et il l'a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël, qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. David sait donc de quoi il parle. C'est la bonne personne pour utiliser l'image du berger. Il y a bien sûr beaucoup de bergers à cette époque-là, mais quand un poème du Proche-Orient ancien parle d'un ou du berger, il fait souvent référence au roi. C'est le sens ici du mot berger. Le seul berger d'Israël, le seul roi, porte le nom personnel de Dieu, le nom de Yahweh qu'on a chanté tout à l'heure, qu'on traduit ici par Seigneur. Le Seigneur est mon berger, et d'emblée une confession de foi. Les autres peuvent suivre d'autres bergers, d'autres rois. Le Seigneur seul est mon berger. Moi qui suis comme une brebis, il me protège, il me guide. Et on sent la relative proximité, la relation personnelle. C'est mon berger. Et notre époque, marquée par l'individualisme, aime bien ce genre d'affirmation. C'est mon berger, c'est le mien. Mais qui dit berger dit forcément troupeau de plusieurs brebis. Le troupeau du Seigneur, c'est Israël, son peuple. Je faisais tout à l'heure le parallèle avec la prière du Notre Père que nous enseigne Jésus. Le Notre Père, c'est bien une prière personnelle du croyant avec son Dieu qui prend en compte une certaine dimension collective. Je ne suis pas chrétien tout seul. Mon Dieu est aussi le Dieu de mon frère et de ma sœur, de sorte que je peux dire seul, dans ma chambre, porte fermée, « Notre Père ». Et quand nous disons « Notre Père » ici, à la Pie, nous le disons aussi avec l'église du CEP et avec toutes les églises qui adorent Dieu de par le monde. Le Seigneur et mon berger portent aussi cette dimension collective. Une relation personnelle avec Dieu, oui, mais je ne suis pas tout seul. J'ai des frères et sœurs avec lesquels je peux partager ce que je vis et grandir ensemble. Le Seigneur, c'est Yahweh, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël. Le troupeau du Seigneur, le peuple du Seigneur, c'est d'abord Israël. Pour la majorité d'entre nous, je crois, nous ne descendons pas de ce peuple, du peuple juif. Mais pourtant, nous pouvons dire avec David, le Seigneur est mon berger. Nous pouvons appeler Yahweh mon berger, grâce à Jésus, qui nous engage même à l'appeler notre Père. Jésus et notre porte d'accès est fait de l'Église, le nouveau troupeau, le nouveau peuple de Dieu. Jésus est notre porte d'accès qui fait de l'Église le nouveau troupeau, le nouveau peuple de Dieu. Je lis quelques extraits de Jean au chapitre 10. C'est Jésus qui parle. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. « Moi, dit Jésus, je suis la porte par où passent les brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu, dit Jésus, afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Tout comme Yahweh est le Seigneur d'Israël, Jésus-Christ est le Seigneur du nouveau peuple qui comprend tous ceux qui croient en lui, de toute nationalité et de toute époque. Jésus incarne ce berger, ce roi qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est mort sur la croix pour chacun de nous et pour tellement plus de personnes encore. Et quand le Seigneur est berger de son peuple, il le comble de sorte qu'il ne manque de rien. Les gazons verdoyants sont un luxe rare en Orient. Le croyant est comblé dans ses besoins matériels, primaires, nourriture, repos, eau, mais il est aussi comblé dans ses besoins moraux et spirituels. Une vie restaurée sur le bon chemin. Une vie restaurée veut bien sûr dire rendre les forces, mais cela veut plus fondamentalement dire ramener. Ça veut aussi dire faire revenir. Une fois perdue, une brebis est incapable de s'orienter. Il faut que le berger parte à sa recherche avant la tombée de la nuit. C'est une confession du psalmiste. Quand je me perds, le Seigneur me ramène. Quand je pêche, il me fait grâce. Et combien de fois ai-je dit, moi, à mes enfants qui pleuraient en ayant mal après avoir fait une bêtise, tu l'as bien cherché, tu n'as que ce que tu mérites. La brebis perdue, en fait, mérite la mort. Elle n'a pas suivi le troupeau et n'a plus la protection du berger. Et pourtant, le Seigneur va la chercher, va la faire revenir. Parce qu'il l'aime, parce que c'est la sienne. Et on connaît bien la parabole du berger qui, ayant perdu une seule brebis sur 100, part à sa recherche. L'évangéliste Luc raconte la joie de cet homme, du berger, quand il la retrouve et la signification de la parabole. Luc 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Nous étions égarés dans notre péché, dans notre rébellion. Pour bon nombre d'entre nous, nous pouvons dire que Jésus est venu nous chercher par des moyens très divers, mais toujours par son esprit. Moi, personnellement, c'était lors d'une discussion avec un ami sous une tente au scout en 2001. Puis à nouveau, à Nouvel An, en 2003. Il a fallu plusieurs fois lors d'un grand rassemblement de jeunes en Allemagne. Deux moments forts à la suite desquels j'ai demandé le baptême. Mais la vie ne s'arrête pas ni à la conversion, ni au baptême. Elle doit se poursuivre, et on l'a entendu tout à l'heure, dans une vie de sanctification. Combien de fois j'ai été repris, réorienté, recherché dans mes erreurs, mes errements, mes... Le berger restaure ma vie. Jésus veut nous ramener de notre égarement moral et spirituel, initialement à la conversion et constamment. Son esprit nous convainc de notre péché, de notre mauvaise voie et nous ramène sur le bon sentier, celui de la justice, c'est-à-dire de la vie. Deuxième image, le ravin. Il y a dans le désert de Judée, c'est de nouveau un petit texte, il y a dans le désert de Judée bien des sentiers trompeurs qui n'aboutissent à rien ou qui mènent à des précipices. Incapable de s'orienter, la brebis s'égare inévitablement lorsqu'elle est livrée à elle-même. Heureusement, le berger est là, il connaît le chemin et il passe le premier. Le troupeau n'a qu'à marcher sur ses traces. Alors avec la première image, celle du berger, tout allait bien. Hein. Le bon chemin, les sentiers de la justice, les verts pâturages, les eaux paisibles, ça nous va bien. La brebis est plutôt d'accord avec son berger, le plan est accepté. Mais est-ce que la vie n'est réellement faite que de paix et d'abondance ? Comment ça se passe pour un chrétien quand son chemin le mène au milieu de l'épreuve ? Et c'est peut-être ce que certains d'entre vous, d'entre nous, vivent aujourd'hui. Tu veux suivre ton Seigneur, et au lieu d'aller au vert, tu vois que tu es conduit dans un sombre ravin, en tout cas dans un chemin que tu n'avais pas prévu, ou que tu te dis « c'est pas du tout là où je veux aller ». David dit que le chemin passe aussi par la vallée de l'ombre de mort. Et ça convient bien à l'imagerie du berger faisant passer son troupeau par des ravins dangereux et obscurs où les brebis sont en danger de mort si elles ne suivent pas leur berger de très près. Évidemment, la vie, et la vie chrétienne notamment, n'est pas faite que de sentiers ensoleillés. Le chemin peut être aussi obscur et dangereux. La brebis en tremble et n'a pas du tout envie d'aller là. Mais c'est bien le chemin sur lequel le berger la conduit. Alors on peut passer à la photo. J'ai pris cette photo le 12 septembre 2019. Ça faisait 3 mois que nous étions mariés avec mon épouse. Et on était partis en voyage de noces en Islande. Et quelques heures avant la photo, on avait frôlé la mort sur un volcan en Islande. Ce n'était pas une vallée, c'était un glacier. Ce n'était pas des ténèbres, mais des crevasses tout autour de nous. On s'était perdu et on était en danger de mort, comme jamais je l'ai été. Quand on est rentré à la voiture, on a eu besoin de lire ce psaume qu'on connaît tous, qui avait alors pris une résonance toute particulière. David ne nous fait pas de belles promesses idéalistes. Oui, la vie est réellement terrifiante et difficile par moments. Il en a fait lui-même l'expérience. Il est aussi bien placé pour parler de ça. On peut penser par exemple à l'épreuve terrible et injuste qu'il a vécue quand il a été poursuivi par son propre fils qui voulait le tuer. David, par ce psaume, nous donne un exemple d'attitude confiante, indépendamment des circonstances. Et pourtant, il aurait eu toutes les raisons d'accuser Dieu ou de douter de sa bonté. Au milieu de sa peur et au centre de ce psaume, la brebis murmure « Tu es avec moi ». La présence du berger est le seul fait qui rassure, la seule certitude. Dans sa faiblesse, la brebis sait qu'elle peut faire confiance au berger qui connaît la route et qui a toujours été fidèle à elle. Au moment du danger grave, le psalmiste cherche plus que jamais la présence du Dieu bon et souverain. Ce n'est plus « il », mais c'est « tu ». Pour franchir le passage périlleux, la brebis s'est instinctivement rapprochée du berger. Dans l'épreuve, David nous invite à murmurer à sa suite « Tu es avec moi ». Notre bon berger, c'est Jésus. Il nous le dit, je suis le bon berger. Et ce berger pleinement bon nous promet sa présence, une présence constante, rassurante, réconfortante. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le sens même de son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Ceux qui souffrent savent que l'épreuve isole. On se sent terriblement seul alors qu'on aurait justement besoin d'une présence réconfortante. C'est l'expérience de Job, qui, dans son malheur, ne reçoit que des reproches de sa femme et de ses amis les plus proches. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, le bon berger qui veille. Si tous nous abandonnent, Dieu nous assure de sa présence à chaque instant. Et il le fait d'une manière on ne peut plus proche, en faisant de nous sa demeure, son temple. Dieu habite en nous, nous qui croyons par son esprit. Alors oui, l'épreuve fait partie de la vie du croyant juif, celle du chrétien, du chinois, du français, de l'iranien, du libanais, de l'américain, de celle de tout homme et de toute femme. Le Seigneur ne promet absolument pas une vie facile, uniquement faite de sécurité, de richesse, de gloire. Être chrétien ne protège en rien contre les aléas de la vie. Les verts pâturages, comme la sombre vallée, sont les justes sentiers où le berger conduit son troupeau. Une seule question reste. Où va ma confiance? Qui est mon berger? Si c'est moi qui me guide, je ne peux compter que sur moi-même. Si c'est les autres, comment être certain qu'ils ne vont pas nous décevoir? Si le Seigneur est mon berger, alors je suis en sécurité. Dans les mains du Dieu souverain et bon, je peux suivre dans la confiance qu'il est avec moi et moi avec lui. Troisième image, le festin. Sans transition, on passe de la vie à la campagne, à la vie de château, des dangers mortels aux festivités. C'est la réalité de la vie qui peut aussi être faite de transitions abruptes. Un jour, tout va mal, et puis le lendemain, tout va beaucoup mieux, et souvent, on n'y est pas pour grand-chose. La brebis est toujours vivante et récompensée de sa confiance. Le berger se fait hôte et prépare lui-même la table d'un festin. Celui qui reçoit David n'est pas qu'un simple berger, c'est bien un roi. Un roi qui sait accueillir et recevoir avec honneur. Un roi qui déborde d'osité. Un roi puissant qui protège son hôte de ses ennemis envieux mais impuissants. À l'époque de l'écriture de ce psaume, il était coutume de sceller un traité d'alliance, un accord entre deux parties par un repas, le vassal, donc l'inférieur, étant l'hôte de son suzerain, donc le supérieur. Le repas est une image de l'alliance que le Seigneur fait avec son invité pour toujours. Il le fait ici avec le psalmiste David, mais il le promet à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, qui disent « C'est le Seigneur, mon berger, mon roi ». Jésus-Christ, descendant de David, est celui qui scellera finalement et définitivement la nouvelle alliance. Une alliance de bonheur et de fidélité qu'on peut aussi traduire par grâce. Cette nouvelle alliance, en vigueur depuis la mort de Jésus sur la croix, garantit que chacun et chacune qui reconnaît Jésus comme Seigneur et berger de sa vie est intégré au nouveau peuple de Dieu. À chaque bénéficiaire de l'alliance est promis ultimement la présence éternelle de Dieu. C'est là l'assurance chrétienne, être chacun et tous ceux qui croient que Jésus est Seigneur, dans la présence de Dieu, dans la maison du Père et du bon berger pour l'éternité. Jésus est la porte, Jésus est le bon berger, Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Ici-bas et dans l'éternité, Dieu est présent. Voilà sa promesse adressée à chacun. Peut-être que certains se demandent ce que l'on fera dans cette éternité. Et je trouve que la Bible ne se contente pas de nous faire la surprise comme un mystère en disant « tu verras bien ». Dieu, par sa parole, nous révèle jusqu'au contenu de cette présence éternelle. Ce psaume donne la perspective de réjouissance, de sécurité, de plénitude, d'abondance, de communion, de victoire sur les ennemis, tel que cela peut nourrir notre espérance. Je lis Ésaïe 25, les versets 6 à 8, qui vient en résonance avec ce psaume. Le Seigneur, Yahweh, des armées, fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Dans cette montagne, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Quand le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, car il est présent, ici, maintenant et pour toujours, au présent et au futur. Alors en conclusion, berger, ravin, festin, trois images qui résument la vie du croyant qui marche par la foi en confessant « Le Seigneur est mon berger, même si... » Et chacun peut poursuivre cette liste, même si j'ai des difficultés au travail, même si dans ces relations ça ne va pas, même si... Les périodes heureuses et malheureuses se succèdent, mais la confiance du croyant va à celui qui lui assure sa présence et le conduit pas à pas, son berger, le Seigneur bon et souverain. À celui-ci, le croyant peut dire « Tu es avec moi tous les jours de ma vie ». Au bout du chemin, voici l'assurance pour tout chrétien, une abondance de joie et de vie dans la présence éternelle du Seigneur. Et je vous propose peut-être, on l'a fait tout à l'heure pour le psaume 62, Francis nous avait proposé de lire nous-mêmes les lignes bleues. Je vous propose qu'on lise ensemble à haute voix le psaume 23, si tu peux revenir, voilà. Et puis, voilà, comme une prière et une confession de foi. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen.